laisser les grands partir pour l'école. Eh oui. Enseignement du dimanche, c'est mieux à dire. Alors, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Et le titre, en fin de compte, de cette prédication pourrait être « Il y a un temps pour tout ». Alors, vous allez dire, c'est facile, il va aller dans Ecclésiaste. Eh bien, vous allez voir que pas du tout. En fin de compte, qui n'est pas touché lorsque on entend des discussions, on est mal à l'aise parce qu'on entend parfois des gens qui traversent des problèmes. Et parfois même, on a tendance à fuir parce que ça fait remonter en nous des sentiments de choses peut-être qu'on a connues, des choses qu'on fuit dans notre quotidien, des choses qui viennent du passé, on en a parlé ce matin, et des choses qu'on préfère refouler. Donc on fuit ces gens. Et ce qu'on voit, c'est par exemple, même dans notre église, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés parce qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes, parce qu'ils sont un petit peu décontenancés devant un Dieu. Pourtant, je ne comprends pas, j'ai une vie chrétienne, je lis ma parole, je prie, je fais plein de choses et pourtant j'ai encore ces épreuves à subir. Et pourtant, moi ce matin, je veux louer le Seigneur pour ça. Pour ces épreuves. Parce que ces épreuves, en fin de compte, ça nous éduque, ça nous fait grandir, ça nous rapproche plus de notre Dieu. Et le Seigneur met également des moments de joie, on le verra plus loin, qui sont nécessaires, en fin de compte, pour attiser l'espoir. Un espoir de savoir que, en se tournant vers le Seigneur, tout s'arrange. Encore faut-il, bien sûr, le voir. Et des fois, on préfère se réjouir plutôt que casser l'ambiance, disons, avec nos problèmes, arriver dans un endroit où la fête est bien, même dans l'église, où les frères et sœurs sont en train de rire, puis on arrive, on préfère rire avec eux plutôt que dire, voilà mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on prie parce que j'ai un problème. Parce que chacun d'entre nous a ses douleurs. Chacun de nous a ses peines, chacun de nous a ses déceptions. Et ça, en fin de compte, ça nous rend différents des uns des autres. Et ces choses qu'on a mal à traverser, en fin de compte, Dieu les utilise. Dieu les utilise aussi difficile à croire, en fin de compte, il les utilise, bien sûr, à une seule condition. Si on se laisse faire, c'est à nous modeler à l'image de Christ. Et en fin de compte, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, et plus d'une fois, c'est de me laisser absorber par les échecs. Dans ma vie de chrétien, j'ai eu des échecs, et souvent je me suis laissé absorber, et en fin de compte, je me suis aperçu que ça me faisait plutôt reculer qu'avancer. On a tous une histoire à raconter. Chacun son histoire, sa propre vie à raconter, qui nous touche, qui peut toucher éventuellement les uns les autres. Et l'erreur, c'est de se laisser emmurer. Emmurer dans la tristesse, emmurer dans la colère, emmurer dans la révolte. Je sais qu'il y a une sœur de l'Église qui devrait écouter cette prédication. Je sais que ça lui ferait du bien parce que je comprends pas. Dieu m'a donné son esprit. Dieu m'a donné la vie. Et pourquoi il permet ces choses-là dans ma vie? Pourquoi Dieu permet ces choses-là dans ma vie? Alors on va partir de trois personnages dans la Bible. Et vous allez voir que les réactions sont complètement diverses face aux décisions et au silence de Dieu. Parce que j'espère que vous êtes conscient, chacun, que parfois nos prières, on fait d'intenses prières et Dieu ne répond absolument pas. Et ça fait partie de la volonté de Dieu. Ça fait partie de l'éducation de Dieu. Donc bien sûr, les trois personnages, c'est une liste non exhaustive. On peut en trouver plein dans la Bible. Mais là, c'est des gens qui ont un destin totalement différent. C'est le cas représentatif de ce que nous pouvons faire face à la volonté de Dieu. Le premier cas, celui d'un juste qui se révolte contre la volonté de Dieu. Le deuxième est celui d'un coupable qui choisit de se repentir et d'accepter le jugement de Dieu. Et je pense qu'on en a parlé ces derniers dimanches. Enfin, le dernier est un innocent qui ne se révoltera absolument pas devant la condamnation de Dieu et va choisir d'accepter la sentence. Alors si je vous demande par exemple qui est le premier, on a un exemple flagrant, il s'appelle Jonas. Je dis toujours, et j'aime bien dire, parce que le livre de Jonas fait 4 chapitres, si Jonas avait obéi, le livre aurait fait un seul chapitre. Mais à cause de sa désobéissance, le livre fait 4 chapitres. C'est un personnage très humain. Il montre des caractères très étonnants pour un prophète. Dieu s'adresse directement à lui pour faire part au peuple de Ninive de son intention de détruire la ville si elle ne se repent pas. Jonas, je vous rappelle, était un prophète de l'Éternel. Et ce que Dieu a trouvé en Jonas, c'est un bon témoignage. Il avait un bon témoignage. Et il avait une confiance suffisamment grande en Jonas qui lui a donné cette mission. Devenir le messager de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Il a refusé d'accomplir la mission. Il a refusé. Et la parole dit même qu'il s'est échappé loin de la face de l'Éternel pour ne pas avoir à s'acquitter de cette mission. Pourquoi ne voulait-il pas obéir? Il savait que l'intention de Dieu était de détruire la ville si la ville ne se repentait pas. Imaginez que vous avez cette mission, Dieu vous dit « va voir un tel » et dis-lui « repens-toi » et que vous vous dites « ah non, il est plus grand que moi, j'aurai pas de mal, tout le monde est plus grand que moi ». Mais vous imaginez, non, je refuse. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et il est parti. Jonas connaissait bien l'Éternel. Il connaissait parfaitement l'Éternel. Il connaissait la bonté de l'Éternel. Il connaissait l'amour de l'Éternel. Il savait bien que si le peuple se repentait, Dieu n'aurait pas mis en action ce qu'il avait décidé. Enfin, on peut dire que le livre de Jonas a été écrit, je pense, au moment de l'époque des Assyriens, de l'Empire assyrien, dont la capitale était Ninive. C'était un empire très puissant. C'est peut-être pour ça qu'il a refusé d'y aller, parce qu'il avait peur. Il était le bras armé de l'Éternel, et pourtant il avait peur. Il a refusé. Et, en fin de compte, ce peuple était une menace très importante pour le peuple d'Israël. Jonas, en bon nationaliste qu'il était, souhaitait que Dieu exerce son jugement, c'est-à-dire non, j'y vais pas, comme ça, ils vont mourir, on sera débarrassé d'eux. Mais Dieu, en fin de compte, avait établi un autre futur pour cette ville. Et la fuite du prophète ne changerait, en fin de compte, rien des plans de Dieu. Et en fin de compte, vous connaissez la fin, c'est que Jonas y est allé. Et il a déclaré les oracles de l'Éternel. Et Ninive s'est repentie. Et c'est précisément ce qui a mis Jonas en colère. C'est précisément que Dieu a sauvé cette ville qui a mis Jonas en colère. Il n'était absolument pas d'accord avec la décision de l'Éternel. Mais enfin, avec tout ce qu'ils ont fait, pourquoi ne les as-tu pas tués ? C'est pas dit dans la parole, mais on peut s'imaginer que Jonas s'est adressé à l'Éternel de cette façon. Et en fin de compte, il a choisi de se renfermer dans sa révolte. Il s'est emmuré dans sa révolte. Il s'est dit que ses pensées étaient plus fortes que celles de l'Éternel. Et il s'est révolté contre tout ce qui s'appelait Dieu. Et la révolte, bien sûr, elle a pris fin. Et il s'est passé quelque chose de spécial dans la vie de Jonas. C'est qu'à un moment donné, Dieu dit, je vais lui donner une petite leçon. Je vais lui montrer qu'en fin de compte, il manque totalement de sagesse. Alors, est-ce que ça nous est arrivé dans notre vie, que Dieu ait la bonté de nous montrer notre manque de sagesse ? Il a fait pousser un ricin sur la tête, parce qu'il faisait chaud, très chaud. Il a fait pousser un ricin au-dessus de la tête de Jonas, et ça a procuré de la joie, mais une joie incroyable, parce qu'il avait choisi de se laisser dépérir. L'endurcissement de Jonas avait fait qu'il dépérissait. Et bien sûr, si on connaît bien l'Éternel, qu'est-ce qui a fait l'Éternel ? C'est qu'il a fait mourir le ricin. Et qu'est-ce que ça a prouvé dans la vie de Jonas ? Ça a prouvé que Dieu avait de la compassion pour chacun d'entre nous. Mais à un certain moment, cette compassion pouvait s'arrêter. Comme le ricin qui a séché. La compassion de Dieu pour Jonas s'est arrêtée. Et il lui a montré une chose. Elle lui a montré la dure réalité des événements. C'est qu'en fin de compte, Jonas dépendait de Dieu. Chacun de nous ce matin, mes bien-aimés, on dépend de Dieu. Même si on se révolte, ça ne changera rien. Parce qu'on dépend de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Notre vie dépend de la souveraineté de Dieu. Et Dieu est souverain sur toute chose. Même si Jonas faisait partie du peuple élu, Jonas a subi l'épreuve de Dieu. Même si on est enfant de Dieu, comme on a entendu ce matin, ce n'est pas pour ça que Dieu ne nous mettra pas à l'épreuve. Il le fera. Parce qu'il a besoin de nous montrer qu'on dépend de lui. Vous imaginez si Dieu avait choisi quelqu'un d'autre ? Jonas serait mort, en dessous de son ricin desséché. Et souvent, lorsqu'on est entêté, lorsqu'on persiste dans notre révolte, on meurt. Ah, peut-être vous allez dire, moi j'en ai connu qui se sont révoltés, ils vivent encore. Mais là, je vous parle de la mort spirituelle. On meurt. Et bien sûr, ça prouvait que tous ceux qui se repentent sincèrement, comme cette ville de Ninive, Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde, en Exode 33, 19. Il a fait grâce à la ville de Ninive. Le seul danger pour nous, c'est d'être comme Jonas, s'emmurer dans nos révoltes, s'emmurer contre la volonté de Dieu. Mais pourquoi il m'arrive ça ? Pourquoi, alors que j'ai choisi quelque chose, Dieu l'interdit ? Dieu n'interdit rien. Dieu n'interdit absolument rien. On a chacun le libre choix. Mais Dieu a des choses bien plus profondes dans notre vie que ce que nous avons choisi. Ce que Dieu avait choisi pour Ninive était bien plus profond que la volonté de Jonas, qui lui refusait d'agir pour faire mourir cette ville. Vous imaginez le message ? Ça veut dire que quelle que soit la chose que vous avez faite, Dieu vous pardonnera si vous vous repentez, sincèrement. Et on en reviendra sur le deuxième point. Le deuxième cas, on le connaît tous. On l'a encore cité, je crois, la semaine dernière. Je crois que c'est Paul qui l'a cité. C'est le cas de David. La plus grande erreur de sa vie, il a commis l'adultère. Eh oui, avec Bathsheba, il a vu cette femme, il a désiré cette femme, il a consommé cette femme. Et il est allé plus loin que ça. Il lui a fait un enfant. Et quand il a vu que cette femme était enceinte, il a dit « Je vais faire mourir son mari, Uri ». Il a envoyé, il a été voir le plus grand général, il a dit « Tu l'envoies en première ligne ». Il était sûr qu'il allait mourir. Et bien sûr, il est mort. C'était le comble de la bassesse qu'il a fait, David. Et si vous lisez, il était au plus près de Dieu et pourtant il a mis en place un plan diabolique et qui va s'accomplir parfaitement. C'est-à-dire que le mari d'Uri, oui, va mourir. Et bien sûr, vous imaginez bien que ça n'allait pas se passer comme ça. L'Éternel a envoyé Nathan. Et il savait qu'il allait être condamné. Bien sûr, la suite, vous lirez, l'enfant est mort. L'enfant qu'ils ont eu ensemble est mort. Mais David savait qu'il était condamné. Il a perdu l'enfant, il était condamné. Et il a décidé de porter le deuil. Incroyable. Alors qu'il avait commis la faute irréparable. Parce que dans la parole de Dieu, vous trouverez qu'aucun sacrifice n'efface l'adultère. Aucun sacrifice. La condamnation est directe. Et lorsque le fils est mort, l'attitude de David est incroyable parce qu'on aurait pu croire qu'il allait se replier sur lui. On aurait pu croire qu'il allait se lamenter sur son sort. Sur la culpabilité qui était pesante, il a pris tout le monde à contre-pied. Et on peut lire ça en 2 Samuel, chapitre 12. Chapitre 12, versets 19 à 23. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Mais que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais, tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu y manges. » Il répondit, Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Pourquoi le ferais-je revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc on peut voir que David savait qu'il était condamné par l'Éternel. Il a décidé pourtant de ne pas porter le deuil, d'arrêter ce qu'il faisait. Parce qu'il savait que ce qu'il faisait était à l'encontre de la volonté de Dieu. Et en fin de compte, ça ne pouvait plus ramener l'enfant à la vie. Et il ne pouvait plus rien faire contre les décrets divins. À quoi bon jeûner pour lui contre la volonté de l'Éternel ? Et il s'est levé. Lève-toi, tous les miracles de Jésus, lève-toi. Il s'est levé, il s'est lavé. Il a reconnu sa responsabilité et il a choisi la vie. Plutôt que sa faute, il a arrêté sa révolte contre l'Éternel, et on sait la suite. Il choisira la voie qui va le mener au pardon. Alors, une parenthèse importante. David connaissait parfaitement l'Éternel. On le sait, on l'a lu, on l'a relu. Et pourtant, il a choisi de pécher délibérément. Délibérément. Le message que j'ai à vous dire ce matin, mes bien-aimés, c'est que il y a une possibilité de pardon, même pour quelqu'un qui pèche délibérément contre l'Éternel. La seule condition, c'est une réelle repentance. David a eu une réelle repentance. Si vous avez commis l'acte le plus horrible, il y a une possibilité de pardon, à condition de se repentir. Et on sait, quand on continue la suite, on sait ô combien David va regretter sa faute. Et on peut noter que le jugement de l'Éternel contre David a été vraiment clément. Parce que, comme je vous ai dit, qu'il n'y a aucun sacrifice pour expier l'adultère. Seule la mort du coupable pouvait expier une telle faute. Et ici, déjà, là, maintenant, on pose le fondement du troisième personnage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui devra payer pour cette faute. On peut bien sûr noter l'attitude d'autres personnages dans la Bible. Il y a eu Abraham, qui ne s'est absolument pas opposé au sacrifice de son fils. Il y a Jacob, qui a lutté contre l'Éternel pour qu'il se révèle à lui. Il y a Joseph, qui n'a jamais reproché à l'Éternel ce qu'il a dû endurer à cause de la jalousie de ses frères. Et Moïse, qui, malgré ses doutes, a dû conduire le peuple dans le désert. Il n'a pas fait comme Jonas, il a exécuté, il a obéi. Bien sûr, toutes ces personnes, Dieu les a utilisées pour montrer son amour, pour prouver qu'il était l'Éternel, le Dieu des hommes, et pour montrer ce qu'il était capable de faire aux hommes. Et bien sûr, il y a une personne qui est arrivée, une personne qui l'a fait, lui, une fois pour toutes, pour chacun d'entre nous. Il s'agit de Jésus. Sa première venue a révélé une chose, c'est qu'il était lui-même Dieu. Assez important d'emmagasiner, vraiment de comprendre déjà, Jésus était lui-même Dieu. Et pourtant, il était pleinement homme quand il est venu sur terre. Il a choisi librement de s'exposer. Librement. Il n'a pas été contraint. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Il n'y a personne qui lui a dit tu feras ça, ça sur terre. Mais il était venu pour obéir à son Père. Il s'est offert aux faiblesses de la condition humaine. Il a accepté la souffrance alors qu'il ne l'a jamais méritée. Il acceptera les tentations qui ont été liées à cette souffrance, on le verra plus tard. Et il a choisi d'être pleinement homme pour venir parmi nous. Il a été tenté dans le désert, tenté par une voix également qui a été plus loin que ses pensées, parce qu'il a demandé à Dieu, et ça vous pouvez lire en Matthieu 26, 42, il a demandé à Dieu d'écarter la coupe qui se présentait à lui. Il savait qu'il venait mourir pour ceux qui le condamneraient. et qui méritait un châtiment éternel. Et pourtant, il a accepté cette condition humaine. Il a choisi une mort honteuse. Il a choisi la croix. Et il savait que la croix allait faire gagner un nombre inconsidérable de pécheurs. Mais il fallait qu'il accepte la souffrance. Et malgré ça, il n'a pas choisi de s'emmurer dans la tristesse. Il n'a pas choisi de s'emmurer dans la révolte. Il a choisi la vie en vivant de tout son cœur les années que Dieu lui a données sur terre. La mission qui lui était confiée, il devait enseigner plutôt que ignorer. Il devait exhorter plutôt que de culpabiliser, encourager plutôt que de condamner, sauver plutôt que de punir. Il a été tenté au point que aucun de nous ne sera tenté de la même façon. Et il a été face à un poids incroyable. Le poids de la culpabilité que lui ont fait peser les hommes. Il n'était absolument pas coupable. Et pourtant, l'humanité l'a rendu coupable. Et il va tenir le coup. Et il va s'acquitter de sa tâche jusqu'à la fin. Face à l'adversité, face du côté condamnation du peuple religieux, des Sanhédrins, il a connu la grande solitude parce que ses disciples au dernier moment l'ont abandonné. Est-ce qu'il en est de même pour nous? Est-ce qu'on va l'abandonner au dernier moment? Lorsque la tempête viendra, est-ce qu'on va l'abandonner? Ésaïe 53. Lisez ce psaume. On ressent vraiment la souffrance que Christ a connue. Versets 6 et 7. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On peut dire chacun suivait sa propre vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous imaginez, vous êtes condamné, quelqu'un arrive et dit non, c'est moi qui prends sa condamnation. Je vais mourir pour lui. Dans certains pays, c'est vous êtes fusillé, vous allez aux États-Unis, c'est la chambre à gaz, c'est l'injection, c'est tout ce que vous voulez, la chaise électrique. Lui dit, c'est moi qui vais prendre sa place. Je vais prendre la place de José. Je vais prendre la place de Colette. Je vais prendre la place de Paul. Et pourtant, il était Dieu. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Jamais il ne s'est révolté. Jamais il a dit « Pourquoi moi ? Pourquoi pas lui à côté ? Mais pourquoi moi ? Je suis saint. Je suis chrétien depuis des années. » Pourquoi moi? Mais aujourd'hui, Jésus est glorifié. Il est assis à la droite du Père. La condamnation, la mort et la condamnation ne sont plus sur lui parce qu'il les a placardés à la croix. Son règne sur la mort et la défaite de Satan, ça a été l'œuvre finale de Jésus-Christ. Et il l'a fait pour nous. Il a dû accepter d'être homme, de se faire cracher dessus, de se faire frapper pour chacun d'entre nous. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut tirer de tous ces enseignements? La première chose, c'est de ne jamais se révolter contre les plans de Dieu. Jamais. Parce que Dieu n'arrêtera pas ses plans. Et lorsqu'il décide quelque chose pour nous, c'est qu'il a choisi une voie royale pour chacun d'entre nous. Il est juste dans toutes ses voies et il ne prend aucune décision à la légère. Est-ce qu'on ressemble à Jonas lorsqu'on préfère de fuir, lorsque il faut donner son témoignage? De toute façon, il n'en vaut pas la peine. Ça ne sert à rien que je lui parle de Dieu. Il le rejette. Est-ce qu'on a ressenti la tristesse ou de la honte lorsqu'on a témoigné, et puis tout est parti en live, et puis on se fait ridiculiser? Est-ce qu'on se sent humilié? Parfois, c'est une situation qu'on rencontre depuis des années qui nous humilie. En fin de compte, on témoigne aux autres qu'on appartient à Dieu et notre vie ne reflète absolument pas qu'on appartient à Dieu. Et on a cette voix derrière l'oreille, et on en a encore parlé ce matin, qui nous dit « Mais t'es en train de suivre un Dieu muet? T'es en train de suivre des fables? Dieu aujourd'hui, il n'existe pas. Regarde, on l'a même enlevé des écoles. Allons, il faut vivre avec son temps. » De toute façon, tu as choisi un Dieu qui ne va absolument pas te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Bien sûr, ces pensées sont à rejeter parce que vous savez d'où elles viennent. Vous savez dans quelle immondice elles ont été trouvées. On n'est bien sûr pas au niveau de Jésus. On n'est absolument pas au niveau de Jésus. S'il est notre exemple dans la résistance, dans la foi, il a entendu les mêmes voix que nous quand le malin lui a dit plein de choses. Et il a toujours répondu, il est écrit. Il y a un temps pour dire à Dieu notre incompréhension. Dieu l'accepte. Je ne comprends pas. On peut se révolter devant Dieu en lui disant « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Sa volonté, des plans pour notre vie. Mais il y a un temps également pour accepter les circonstances. Et c'est ainsi qu'on reconnaît la souveraineté sur les événements qui sont dans notre vie. Comme dira Paul aux Romains, Romains chapitre 9, verset 20-21, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce normal qu'il m'arrive cela? Mais je suis saint !» Il y a un temps pour regretter et un temps pour aller de l'avant comme Lot l'a fait. Il va se soumettre au juste jugement de Dieu concernant Sodome et Gomorre. Sa femme, elle a fait l'inverse. Elle s'est retournée. Qui se retourne sur son passé aujourd'hui? Tu as donné ta vie à Jésus? Regarde devant. Si tu regardes derrière, les condamnations vont venir. Mais est-ce que tu as oublié l'instant où Christ est mort sur la croix pour ce qui est derrière? On a un Dieu qui vit au présent. On n'a pas un Dieu qui vit au passé, il vit au présent. Lorsqu'on a reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, lorsqu'on s'est repenti, profondément repenti, Dieu a coupé le passé. En Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Ce qui s'est passé dans nos vies, au contraire, doit être l'inverse, doit nous aider à aller de l'avant, à aller vers l'avenir avec Christ. Jésus a été un très bon exemple. Il savait ce qu'il allait lui arriver. Il connaissait sa destinée. Il a choisi de se soumettre à Dieu. Il ne s'est jamais révolté. Et aujourd'hui, il a la couronne de gloire donnée par Dieu lui-même. Et cette couronne est destinée pour chacun d'entre nous, puisqu'on est héritier, co-héritier de Jésus-Christ. C'est dans cette nouvelle vie en Christ qu'on a cette gloire. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, et c'est nécessaire et bon dans certaines circonstances qui nous touchent, mais il y a un temps pour accepter. Et c'est précisément ce que Dieu a fait avec David, lorsque David a accepté le juste jugement de Dieu, rétribuant ainsi le comportement inacceptable qu'il a eu. Jésus a aussi un temps de crainte, ne l'oublions jamais, et de deuil dans le jardin de Gethsémané. Il demandera à Dieu de lui éviter de passer par la croix. Il aurait pu s'y soustraire, parce qu'il ne le méritait absolument pas. Finalement, il a fait, il a obéi. Il est allé jusqu'au bout, parce qu'il savait qu'il était le seul moyen pour chacun d'entre nous, ce matin, mes bien-aimés, d'être sauvé, d'avoir le poids de la culpabilité enlevé. Est-ce que vous savez ce que c'est dans votre vie ce matin, mes bien-aimés, le poids de la culpabilité enlevée? Emmanuel nous l'a dit tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu. Personne ne peut ravir votre couronne, même le diable. Et plus vous vous approchez de Dieu, plus le diable craint et tremble. Les exemples et les destins sont donnés à travers toute la parole de Dieu. Et ils sont là pour enseigner, pour connaître et faire connaître. On a chacun nos manquements. Mais en contrepartie, on a la fidélité et l'amour de Dieu. Il faut laisser de côté, ce matin, à partir de ce matin, toutes nos frustrations, tout ce qui nous écarte du chemin glorieux. Si vous n'êtes pas comme Billy Graham, qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous savez que vous pouvez vous retrouver dans le ciel aux côtés de Billy Graham. C'est parce que Dieu ne vous a pas choisi comme prédicateur. Imaginez qu'un jour, quelqu'un vous dit « je suis malade », vous posez simplement vos mains sur ses épaules et vous lui dites « ça va aller ». Puis vous partez. 3 semaines après, on vous dit « tiens, tu te rappelles Serge, qui était gravement malade ?» Ben, il est complètement guéri et on ne sait pas pourquoi. Quelles questions allez-vous vous poser? Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce qui vous attend en chacun, dans les dons spirituels. Ceux qui marchent avec le Seigneur, on l'a dit ce matin avant la Sainte Cène. C'est ce que Dieu veut vous donner à chacun, un don spirituel. Ne nous laissons pas emmurer dans nos pensées, dans le fait de dire « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Même moi, je suis incapable d'être ceci et d'être cela, sans la grâce de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Christ s'est donné pour chacun d'entre nous. Dieu connaît nos erreurs. Dieu va nous amener dans des endroits pour nous dire « regarde, c'est là où ça ne va pas ». À nous de se lever. À nous de se repentir et à nous d'avancer sans jamais regarder derrière. Parce que celui qui retourne revient à ce qu'il était avant. La femme de Lot, c'est ce qui lui est arrivé. Elle a regardé derrière. Elle a été changée instantanément en statut de sel. En psaume 126, versets 5 et 6, il y est dit « Qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence remplie de joie sous le poids de ses gerbes ?» L'Éternel, ce matin, veut vous donner de la joie. Il veut vous remplacer votre tristesse. Il veut vous remplacer vos frustrations en joie. Moi, je te dis ce matin, lève-toi. Repens-toi et tu vivras. Amen.